autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, amis auditeurs, pour remonter le temps aujourd'hui jusqu'aux origines de la guerre. Quand et comment l'homme a-t-il inventé la guerre? Était-ce par un beau matin? À quelle date? De quelle manière et avec quelles armes? Et surtout, comment les historiens peuvent-ils le découvrir? C'est précisément par les armes, à partir des premières épées de l'âge de bronze, des premiers outils indéniablement créés pour tuer, que notre invitée, la proto-historienne Anne Loerff, archéométallurgiste spécialiste de l'âge de bronze, a décidé d'enquêter pour creuser la face sombrement outillée de notre humanité autour de la question « Quand les hommes ont-ils inventé la guerre ?» Bienvenue pour découvrir où, quand et comment la guerre a commencé. Bonjour Anne Loerff.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur en proto-histoire européenne à l'Université de Lille. Vous enseignez l'archéologie du néolithique et des âges des métaux en Europe. Vice-présidente du Conseil national de la recherche archéologique. Vous êtes archéométallurgiste, spécialiste de l'âge du bronze. Et vous venez de publier chez Belin, après un premier ouvrage remarquable sur les proto-histoires d'Europe, de Néandertal à Vercingétorix, vous venez de publier, Anne, un formidable essai par les armes. Le jour où l'homme inventa la guerre, comment et pourquoi avez-vous décidé de vous lancer dans une aussi périlleuse enquête, non pas sur les traces de la violence, mais bien sur les traces de la guerre par les armes?
Tout à fait, sur la guerre et non pas uniquement sur la violence. Alors c'est à la fois une rencontre entre moi et ma documentation d'une certaine manière, puisque comme vous l'avez dit, je travaille sur la métallurgie et plus particulièrement sur les alliages cuivreux. Et étude après étude, durant des années, après avoir regardé et étudié dans le microscope un certain nombre d'objets, il a bien fallu que je me rende compte que certains de ces objets disaient des choses particulières, d'une certaine manière incarnaient des réalités spécifiques, et en particulier un objet, l'épée. Et donc j'ai décidé du coup de m'arrêter sur cet objet.
Sur l'épée et sur, vous citez dans cet ouvrage, une date clé, c'est celle de la naissance de l'épée. On est dans l'âge du bronze, entre 1700 et 1600.
C'est ça, alors c'est pas le tout début de l'âge du bronze, puisque en Europe, voilà, avant notre ère. Le début de l'âge du bronze en Eurasie commence à l'extrême fin du 3e millénaire avant notre ère, donc on est dans une phase initiale de l'âge du bronze, mais pas au tout début. Et on voit effectivement cet objet apparaître grâce en fait à la naissance des alliages cuivreux, du bronze en l'occurrence, qui est un mélange de cuivre, d'étain et éventuellement d'autres métaux, comme le plomb par exemple, en toute petite quantité. Et donc l'épée naît parce qu'il y a cette forme de révolution technique qui apparaît à ce moment-là et qui correspond également à des besoins particuliers qui font naître cet objet qui est sans ambiguïté. Une épée ne sert qu'à attaquer autrui, soit pour le blesser, soit pour le tuer.
Vous avez donc choisi cet objet-là et cette espèce de date un peu butoir pour essayer quoi? De remonter et de voir si avant même la naissance de l'épée, les hommes faisaient la guerre et avaient inventé la guerre.
En fait, je suis partie d'une certitude. J'ai voulu partir d'une certitude, c'est-à-dire que je suis partie de cet objet emblématique qui me disait quelque chose de très précis, puisqu'effectivement son utilisation était sans ambiguïté.
Et on le trouve en grande quantité à cette période-là d'un seul coup, c'est ça?
Alors, la production va en augmentant. Mais entre 1700 et 1600, on voit effectivement...
Avant notre ère,
toujours. On voit apparaître cet objet qui se développe, dont les morphologies évoluent au cours du temps et selon les régions. Mais c'est un phénomène absolument général. Et aujourd'hui, pour l'âge du bronze, qui va donc de 2100 avant notre ère à peu près 800 avant notre ère, on a des milliers et des milliers d'épées en Europe conservées sous différentes formes. Donc cet objet, c'est pas anecdotique, c'est vraiment une réalité extrêmement forte. Donc je suis partie de cette réalité et je me suis posé la question de savoir ce que cela signifiait sur le plan technologique, sur le plan économique et sur le plan social.
Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie non pas les origines de la violence, mais ça signifie en tout cas une certitude sur le début de ce qu'on appelle la guerre, c'est-à-dire de combats organisés.
Alors, je ne sais pas si c'est le début. Ce qui est certain, c'est que dans ce que l'on peut appeler la course à l'armement, c'est un jalon très fort, puisque c'est la première fois que les hommes créent un objet pour ça, pour la guerre. Et cette course à l'armement ne cesse ensuite d'exister, puisqu'on le retrouve jusqu'à aujourd'hui, hélas. Ensuite, à partir de cette certitude-là, je me suis, d'une certaine manière, j'ai essayé de la mettre en perspective. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la question de la naissance. Est-ce que l'épée est effectivement la naissance en tant que telle de la guerre, ou est-ce que par le passé, avec des objets qui ont des fonctions qui, a priori, pour les archéologues, puisque pour ces périodes-là, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement important en Europe, nous n'avons aucun écrit. Donc nous n'avons, entre guillemets, que l'archéologie, que les objets qu'il faut donc faire parler. Est-ce que lorsque l'on a une pointe de flèche, on est en capacité de dire que c'est un objet qui va servir à la chasse, qui va servir à la guerre? Est-ce qu'on a des typologies différentes qui vont permettre de trancher dans un sens ou dans un autre?
Oui, parce que quand on parle de l'origine de la guerre, d'abord de quelle guerre parle-t-on?
Alors, ce que je démontre dans cet essai autour de l'armement métallique, c'est que on est dans une société qui, pour que l'épée puisse exister et pour que tout ensuite l'armement défensif qui peu à peu l'accompagne existe, ça veut dire que la société met en place toute une organisation, tout un pan de son économie, puisqu'il faut des approvisionnements en métaux. Il va falloir faire circuler sur des milliers de kilomètres certains approvisionnements. Il faut des hommes qui soient en capacité de fabriquer ces armes. Il faut ceux qui sont capables de les utiliser. Ça veut dire qu'on crée tout un secteur qui est dédié à cette réalité. Donc, en ça, on a effectivement un moment clé dans l'histoire de l'Europe, si ce n'est de l'humanité, puisque d'autres sociétés ont trouvé d'autres modèles pour, d'une certaine manière, inventer la guerre. Mais je crois que c'est ça, c'est cette idée que la société dédie toute une partie de son organisation et de sa conception autour de ce secteur très particulier du combat, organisé, légitimé, pensé, accompagné. C'est pas opportuniste, c'est voulu.
Autour de la question comment la guerre, cette véritable guerre organisée, a commencé, quand l'homme a-t-il inventé la guerre? Tout de suite une question technique, cette fois-ci soulevée par Caroline Tourbe de Science et Vie.
Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un objet, par exemple un couteau, était aussi une arme, ou à l'inverse que c'était exclusivement un outil pour découper de la nourriture?
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Anne?
Alors, on peut répondre par la négative. C'est-à-dire que y a les objets qui vont s'exclure d'une certaine manière d'usages multiples. C'est effectivement le cas de l'épée. C'est-à-dire que
l'épée sert à tuer,
vous n'allez pas à la chasse avec, vous n'allez pas à la pêche et vous ne partez pas en vacances avec. L'usage est très clair.
Vaut mieux pas.
Donc là, on est sur une réalité claire. Après, il y a des objets pour lesquels on peut toujours, avec un couteau, agresser quelqu'un. Et on peut finalement agresser quelqu'un avec peu de choses, hélas. Y compris simplement avec ses poings. Donc toute la question, c'est de savoir si la morphologie de l'objet, si les traces d'usage que l'on peut avoir sur certains objets vont pouvoir être des indicateurs suffisamment forts pour qu'effectivement on puisse trancher sur un usage très spécifique.
Et dire en tout cas que c'est une arme, même si ça n'est pas qu'une arme, c'est une arme.
Que c'est une arme, oui, absolument. Donc il y a toute une panoplie qui va être une panoplie de guerriers, de combats. Là, c'est très clair. Et puis, il y a des objets que l'on trouve dès la période précédente, l'âge du bronze, c'est-à-dire le néolithique, qui vont être en matériaux, non pas cette fois-ci métalliques, même si on a des haches qui sont en cuivre, par exemple, mais on a surtout l'usage de matériaux lithiques, donc de la pierre qui est taillée, du silex par exemple. On a effectivement des objets, en particulier les pointes de flèche, qui peuvent avoir servi à la chasse. Et certaines probablement ont servi. On a des représentations, par exemple dans le Levant espagnol, qui montrent des affrontements entre des hommes. Est-ce que c'est suffisant pour dire, alors qu'on a finalement des témoignages qui sont relativement réduits, restreints, que c'est un phénomène d'ampleur à l'échelle de l'Europe?
Ou que ce sont des petits combats? Est-ce que c'est véritablement
une guerre? Voilà, c'est ça. Toute la question, c'est ça. C'est l'ampleur, l'organisation que ça suppose derrière, et finalement l'organisation sociale qui porte la guerre. Allez-y.
Autour de la question de la guerre, justement, et de ces armes en métal ou en autres matériaux, un nouvel éclairage en forme de question du philosophe Stéphane Flocari, qui était lundi dernier notre invité.
dans la première scène, L'aube de l'humanité, de 2001, Odyssée de l'espace, Stanley Kubrick filme deux groupes d'australopithèques qui se réunissent autour d'une mare. Et alors qu'on les a vus se battre pour cette mare une première fois simplement avec des simagrées, dans la deuxième scène que filme Kubrick, l'un des australopithèques s'est doté d'un os. Et bien avant le métal, déjà l'os a sans doute dû servir et d'outils et d'armes. Au fond, est-ce que, c'est l'hypothèse de Kubrick, la naissance de l'outil n'est-elle pas contemporaine immédiatement de la naissance de l'arme? Car l'outil et l'arme ont le même but, ils permettent à l'homme de ne pas recevoir la mort, mais de la donner. Le problème de l'arme, c'est que l'homme va la retourner non pas contre le milieu naturel pour essayer de survivre, il va la retourner contre l'autre homme. Alors est-ce qu'au fond, l'arme, ça n'est pas un outil devenu fou?
Votre réponse, Anne-Laure, ou plutôt votre sentiment de proto-historienne?
C'est une formulation intéressante sur la folie qui s'empare des objets. Dans cette scène,
des objets ou des hommes?
Et des hommes. Deux, sans doute. Les deux. En tout cas, ce sont les hommes qui donnent la folie aux fabrications qu'ils produisent eux-mêmes. Je crois qu'il y a, dans cette scène, il y a quelque chose d'important, dans cette scène qui est mentionnée, de film. C'est la question, finalement, de saisir quelque chose qui existe, mais on est dans une réalité, j'allais dire, opportuniste. On est dans un acte opportuniste. On attrape quelque chose
et on tape
qui
avec
améliore,
sur le crâne du voisin.
Et ça va permettre d'améliorer finalement l'action qu'on souhaite mener. Mmh. Et je pense qu'on est dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on est dans une logique où l'on va chercher à être plus performant. Et ça va de pair. C'est une question très forte et très complexe, hein, la question qui est posée là. Mais c'est clair que dans la course à l'armement que j'évoquais tout à l'heure, on est vraiment dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir un viatique, d'une certaine manière, d'attaque qui va être le plus performant possible dans le mode de combat que l'on aura choisi d'avoir vis-à-vis d'autrui. Puisque là aussi, les modes de combat peuvent varier très largement d'une société à une autre. Je crois que ce qui est important... je ne sais pas si on peut confondre aussi fortement les outils et
les armes.
Mmh. Je crois qu'on est quand même dans deux destinations, dans des types de fonctionnalités qui sont différentes. Donc ça fait appel quand même à des réflexions et à des usages qui ne se recoupent pas forcément. Et heureusement, l'arme est quand même un objet très très particulier qui répond pas aux mêmes logiques.
Et ce qui fait qu'on en a, vous en avez trouvé tant que ça et que vous êtes Anne-Laure décidé de travailler sur ces armes et notamment autour des épées, est-ce que c'est aussi lié à ce matériau qui se garde et donc que les archéologues peuvent retrouver? Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement plutôt, hein, vous tentez de remonter un peu, vous dites comme une écrevisse à reculons, remonter un peu le temps? Est-ce qu'on n'a pas trouvé des traces d'armes qui auraient pu servir à une guerre organisée? Est-ce que c'est une question de matériaux?
Alors, reculons comme une écrevisse, c'est un titre d'Umberto Eco que j'ai effectivement repris et que je cite.
La préhistorienne que vous êtes a des lettres.
Non, mais je trouve que le titre correspondait un petit peu finalement à ma démarche. C'est-à-dire que d'une certaine manière, je n'ai pas au départ choisi de travailler sur la guerre. Ce n'était pas un sujet que je voulais aborder en tant que tel et que d'ailleurs, les archéologues pendant très longtemps n'ont pas abordé en tant que tel. C'est un sujet qui est récent dans nos problématiques et dans nos études.
Pourquoi? Parce qu'on automatiquement, on imaginait les hommes préhistoriques d'abord comme peut-être violents et sanguinaires, parce qu'on ne pouvait pas se poser ces questions-là, parce qu'il n'y aura pas de réponse, de toute façon, de date précise du moment où, où l'homme a inventé la guerre.
Je pense qu'il y avait, plusieurs facteurs. Il y avait effectivement la question de pouvoir répondre précisément, d'oser aussi. Je pense qu'on parfois on s'auto-censure, parce que comme effectivement on n'a pas de texte, on a des objets, et que les faire parler... C'est-à-dire que quand vous avez une broche qui va attacher un vêtement, vous avez un usage qui est assez clair. C'est à la fois utile, c'est décoratif, et on sait dans quel registre on est. Pour ce qui est de la guerre, sachant que c'est une question extrêmement délicate, complexe, difficile même à aborder par les contemporains, c'est plus compliqué. Les matériaux qui se conservent, le lithique se conserve très très bien. La pierre, bien mieux que le métal, par exemple. Et puis on avait sans doute aussi cette idée que vous évoquez, qui est la question d'imaginer l'homme violent dans la grotte, mais violent. Est-ce qu'on l'attachait à la guerre? Ça, c'est un questionnement que les paléolithiciens ont introduit plus récemment. Et puis on a aussi, à partir du moment où on a étudié la période précédant l'âge du bronze, le néolithique, et en particulier à partir de l'après-Seconde Guerre mondiale, on va dire, on a imaginé le néolithique, donc le début de la proto-histoire européenne, l'arrivée de l'agriculture et des paysans comme un monde idyllique, pacifique, on était aux champs, on s'occupait des bêtes, et on ne combattait pas, ce qui est probablement une illusion, parce que à partir du moment où les hommes s'implantent, se sédentarisent, ils sont implantés dans leurs terres, et probablement que ça fait des jaloux, ça doit faire en tout cas de bonnes raisons
de partir en guerre,
ça c'est sûr.
Autour de la question des origines de la guerre, on continue de s'interroger en écoutant aller un autre genre de guerre, bien plus funky, version Motown, Edwin Starr, War, sur RFI.
Autour de la question.
Sur RFI, autour de la question, quand l'homme a-t-il inventé la guerre? Nous sommes en compagnie de l'archéométallurgiste, historienne Anne Loher-Fautor de Par les armes, le jour où l'homme a inventé la guerre. Vous faites parler les métaux pour le savoir, Anne. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les métaux?
Ils nous disent beaucoup de choses, les métaux. Alors, ils nous disent, quand on les regarde de l'extérieur, évidemment, ils nous disent des formes, ils nous disent des usages en lien avec la morphologie. Et puis, quand on est archéométallurgiste, on fait quelque chose d'assez bizarre, on rentre à l'intérieur de la matière. Et à l'intérieur de la matière...
Alors, par des techniques...
d'investigation qui peuvent être très variées. Moi, je fais des petits prélèvements sur les objets, des micro-prélèvements de 2 mm sur 2 à peu près. Il me faut du métal sain, ce qui n'est pas toujours évident parce que ce sont des très vieux objets, donc ils ont de la corrosion. Donc il faut du métal qui puisse informer. Et puis, on regarde dans différents types de microscopes.
Et qu'est-ce que ça vous dit de rentrer comme ça à l'intérieur?
Alors, ça nous dit plusieurs choses. D'abord, la première chose, c'est que c'est très beau ce qu'on voit dans un microscope. Ça ressemble un peu à une peinture contemporaine. Il y a des verts, du rouge, du jaune, du noir. Et puis, à l'intérieur, au-delà de ce plaisir esthétique, mais après tout, il n'y a pas de raison de le bouder, eh bien, ça donne des indications, en fait, sur la chaîne opératoire de fabrication.
Comment ont été fabriqués ces outils et, en l'occurrence, ces armes?
Voilà. Parce qu'en fait, les métaux anciens ont, en raison des procédés de réduction minière, gardent par exemple des traces et des inclusions que n'ont plus les métaux contemporains. Je pense en particulier à des inclusions de sulfure. Et c'est très intéressant pour l'archéométallurgiste parce que ça va donner des quantités d'allongement, ça va donner... on peut regarder aussi la taille des grains, on va regarder différents détails qui vont être autant d'indicateurs sur la manière de fabriquer les objets. À partir de ça, on va pouvoir essayer d'imaginer la chaîne opératoire dans son intégralité, le temps passé l'acier par l'artisan pour fabriquer. Et donc, on a là, d'une certaine manière, des éléments qui permettent de commencer, d'une certaine manière, à mettre l'artisan dans l'atelier pour la fabrication.
C'est ça qui est très intéressant aussi dans cette histoire de la guerre par les armes, à travers les armes. C'est aussi que ça pose énormément de questions et que ça nous raconte aussi toute une société, vous l'avez dit, qui n'a pas laissé d'écrit. Donc, nos lointains ancêtres en Europe, en Eurasie, vous, c'est vraiment votre terrain, c'est pour ça qu'on parle d'Europe et d'Eurasie. On ne sait pas ce qui s'est passé ailleurs, d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi de la métallurgie ailleurs, notamment sur tout le continent africain. Pour ce qui est de la fabrication des armes, il faut quand même le bronze, c'est le plus...
on peut fabriquer des armes en fer. Moi, je ne suis pas spécialiste de la métallurgie du fer.
Donc, il y aurait des études à mener
Il y a des études qui sont faites, mais le fer apparaît pour l'Eurasie après le bronze. Donc, ce sont, comme moi, je m'intéressais d'une certaine manière, non pas au jour et à l'heure de l'apparition, mais il y avait quand même un petit peu cette idée-là.
De la guerre.
J'ai moins intégré toute cette métallurgie, y compris de l'épée ou de l'armement défensif, de l'âge du fer, qui donc démarre vers 800 et qui s'arrête pour l'Eurasie à la conquête romaine.
J'ai envie de vous soulever une question posée par un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Il est en Côte d'Ivoire, il s'appelle Janus, et il vous demande si finalement l'invention de la guerre, bien avant la découverte des métaux, elle n'est pas liée essentiellement à la nécessité de l'homme de posséder. On parlait du néolithique, de ces paysans qu'on pensait pacifiques, des premiers agriculteurs qu'on pensait pacifiques. Est-ce que finalement, quand on essaye de retracer l'histoire de la guerre, vous le faites par les armes, par les outils Mais est-ce qu'il ne faut pas remonter encore plus loin?
Alors, moi, je pars de ce que j'ai comme documentation et entre guillemets comme preuve, parce que c'est le travail de l'historien de travailler à partir des preuves dont il dispose. Mais sur les questions, finalement, des raisons de guerre, il y a eu de nombreux théoriciens à théoriser autour de ces raisons. Prendre à l'autre par la force, montrer qu'on est le plus fort, posséder ou se défendre sont des raisons classiques de guerre. Après, ce qui change, ce sont les modalités, d'une certaine manière, de mise en œuvre en fonction de la nature de la société elle-même et effectivement des armes, des modes de combat et des acteurs de la guerre au sein des différentes sociétés.
Ce qui veut dire aussi que cette préhistoire ou cette proto-histoire de la guerre nous renseigne énormément sur le mode de vie de ces sociétés.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire que c'est évidemment un volet d'activité qui est très fort. C'est pour ça que je l'ai isolé en tant que tel. Mais à titre personnel, c'est vrai que moi, je me suis d'abord intéressée à l'artisanat en général. C'est-à-dire que l'artisan qu'on évoquait tout à l'heure, alors en Eurasie, il est pas tout seul. C'est-à-dire que ça existe en Eurasie. Il y a d'autres régions du monde où la métallurgie est absolument extraordinaire. Je pense en particulier au Japon, à la Chine, où on a des métallurgies pour les alliages cuivreux qui sont vraiment remarquables, mais dans des sociétés qui sont très différentes. Là, ce qui m'intéressait, c'était effectivement de travailler sur ces productions et d'essayer de voir ce que cela signifiait, à la fois du côté de celui qui produit, qui fabrique, et de celui qui utilise ces productions, ou troisième élément, de ceux qui, d'une certaine manière, conçoivent ou accompagnent cette production. Donc, on se rend compte que derrière, finalement, un objet qui peut être relativement simple, il y a tout un ensemble d'acteurs et que ça va renvoyer à différents secteurs de l'existence. Hélas, la guerre, à partir de l'âge du bronze de manière très claire, mais heureusement aussi d'autres secteurs. On a de la vaisselle, on a de la parure, on a d'autres productions, j'allais dire, plus légères, plus joyeuses, plus moins difficiles.
Mais nous sommes aujourd'hui sur les origines de la guerre par les armes, avant de continuer à nous interroger sur la manière justement dont les hommes, et puis parfois les femmes aussi, ont conçu des armes nouvelles. Nouvelle question justement pour vous, soulevée par un autre archéologue, Olivier Veller, spécialiste celui du sel.
Alors moi, ma question, c'est est-ce qu'on a besoin d'armes pour faire la guerre?
Votre réponse?
Alors, je crains que, dans l'absolu, on pourrait effectivement se dire qu'on peut combattre à point nu. Sauf que dès que les hommes sont un petit peu en groupe, un petit peu en nombre conséquent, et que l'on rentre dans ce besoin justement de performance qu'on évoquait tout à l'heure, ça ne suffit plus. Et donc, on est effectivement, pour faire la guerre, on a besoin, un minimum, de quelque chose, d'un objet qui va permettre d'être hélas, plus efficace.
J'ai envie de m'arrêter aussi, Anne-Laure, sur la couverture de votre livre, donc Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre, avec une image saisissante de modernité. C'est une gravure rupestre, c'est ça, qui date de l'âge de bronze et qui montre, c'est très schématique, hein, deux guerriers qui s'affrontent. Enfin, on voit deux haches, on voit quoi, des sortes de boucliers.
Les épées, les boucliers, les épées aussi, qui se trouvent dessus. Alors, ce sont des pictogrammes, des gravures qui sont faites à l'extérieur, dans le paysage. En Scandinavie, il y en a au Danemark, en Norvège, en Suède, en très grand nombre en Suède. La couverture est un extrait retravaillé, on va dire, d'une gravure de Tanum en Suède. Et il y en a des centaines, des milliers, les collègues scandinaves les enregistrent. Et ces gravures sont assez extraordinaires parce qu'elles renvoient à un registre qui visiblement montre la complexité de la guerre. C'est-à-dire qu'on a cet affrontement, ces épéistes, ce duel. On est dans une guerre en face à face, très clairement. Et en même temps, ces hommes sont en groupe. Ils sont associés à des bateaux, souvent, à des symboles solaires. Donc là, on a des boucliers qui renvoient à des formes de soleil, mais on en a des soleils plus clairement. Donc la guerre, l'affrontement, c'est à la fois une affaire d'individus, c'est une affaire de voyage, ce qui est tout à fait cohérent avec les déplacements à la fois et des hommes et du minerai qui est nécessaire et des combattants eux-mêmes. On a les astres et puis, mais on l'évoquera je crois peut-être plus tard, on a également des instruments de musique.
On va l'évoquer plus tard, mais avant je vous propose un autre genre de musique autour de la question des origines de la guerre sur un autre champ de bataille avec Alexis Hachka sur RFI Give, un autre champ de bataille.
Autour de la question.
Pourtant me voilà pendu aux cordes d'une guitare, aux mains d'un inconnu. À ses pieds je pose les armes, sans honte et sans faiblesse. Quand sa voix gorgée de larmes me frappe et me transperce, comme une lame qui s'enfonce au plus profond de mon être, qui s'en vient briser l'écorce de celui que je pensais paraître. Cerné sans armure, impossible que je m'en aille, me voilà au pied du mur, au milieu d'un champ de bataille.
Give me another song, give me another boot. Hit me again with music, hit me again with music. Give me another song, give me another boot. Hit me again with music, hit me again with music.
De son pauvre cœur qui saigne, j'entends chaque battement, ses amours, ses rires et ses peines, ses colères, ses tremblements. Et chacun de ces mots, telle une tempête de sable, sans bien recouvrir ma peau d'un frisson insaisissable. C'est une voix qui tremble, une voix chargée d'histoire, une voix qui nous ressemble, c'est la voix du peuple noir. Je ne veux ni une marchande, revanche ni représailles, à genoux je lui demande un autre champ de bataille.
Alexis Hachka sur RFI, Give me un autre champ de bataille. Autour de la question des origines de la guerre, en compagnie de l'archéométallurgiste, historienne et proto-historienne Anne Loerf, qui vient de publier Par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre organisée et l'organisation des champs de bataille. Je vous propose, Anne, un nouvel éclairage. C'est celui de deux physiciens, Caroline Cohen et Christophe Clanet, du laboratoire LADIX de l'École Polytechnique, qui travaillent normalement sur la physique du sport et notamment des terrain de sport, mais pas seulement. Ils étaient lundi dernier nos invités. Écoutez leur éclairage, comment dire, balistique.
Un truc qu'on avait fait il y a quelques années, c'était regarder ce qui fixe la taille des champs de bataille. Donc on l'avait fait pour le sport, qui est une forme de guerre entre nations. C'était la portée des projectiles, donc des ballons dans le cas du sport et des boulets de canon dans le cas de la guerre. Et on se demandait si la distance entre les lignes ennemies n'était pas fixée par cette portée des canons qui a évolué avec l'évolution des armes.
Dans le sens que si jamais les armées sont trop loin par rapport à la portée des armes qu'elles utilisent, elles ne peuvent pas se tuer. Et ça, ce n'est pas la guerre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles se rapprochent jusqu'au moment où elles arrivent à se tuer. Mais si jamais elles sont trop près, on peut tuer tout le monde, même le général. Et ça non plus, ce n'est pas la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une distance optimale, entre guillemets, qui va séparer les fronts, qui permet à la fois de se tuer, mais pas trop.
Il faut se tuer, mais pas trop, pour que ce soit la guerre.
C'est ça, il faut se tuer, mais pas trop.
Anne-Herf.
Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement le mode d'affrontement, finalement le mode de combat, qui peut être extrêmement variable. Et puis, il y a les lieux de combat, qui sont évoqués à travers les champs de bataille, dans ce qui vient d'être entendu.
Vous en avez un, de champs de bataille.
Les champs de bataille, comme finalement, d'abord, on est sur des époques qui sont quand même très lointaines. La naissance de l'épée, c'est donc il y a quelque chose comme un peu plus de 3500 ans. Donc on a continué à occuper les lieux qui ont pu servir de champs de bataille, dans la majorité probablement des situations.
Donc pour trouver des traces,
donc
ou des
vestiges, trouver des traces,
complexe.
Ça c'est la première chose. Et puis il y a une deuxième chose qui est qu'on trouve la majorité des armes pour l'âge du bronze dans des ensembles très particuliers de cette époque qui sont les dépôts métalliques. Donc visiblement il y a une partie des armes qui sont rassemblées, soit entières, soit fragmentées, dans ces ensembles très spécifiques qui sont volontairement abandonnés. On trouve des casques, les casques de Bernière d'Ailly, par exemple, qui ont servi de modèle au casque d'Astérix, qui est beaucoup plus tardif, mais quand même. Les cuirasses de Marmès, qui sont des objets emblématiques pour l'archéologie française, qui datent de l'âge du bronze final.
Oui, parce que quand on parle, c'est bien pour ça qu'on parle de la guerre, c'est parce qu'il y a vraiment tout un équipement.
Il y a tout un équipement offensif,
offensif et défensif.
Offensif et défensif. Donc il y a cet aspect un peu particulier de l'âge du bronze, ce qui fait que toute une partie des armes, finalement, sont dans des lieux un peu particuliers. Et puis, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le sujet est relativement récent. Et donc, on n'a pas non plus cherché, même si c'est compliqué, parce que ça fait longtemps que ces batailles ont eu lieu, systématiquement des lieux de bataille en Europe. Et nos collègues allemands en ont trouvé un, donc au nord de Berlin, à Tollens, où, visiblement, il y a effectivement eu lieu une bataille. On a des restes humains osseux, avec des impacts, et on a des armes sur le terrain. Donc là, on a une espèce de premier champ de bataille pour cette époque-là, et il est probable que l'on se mette à chercher peut-être de manière plus systématique, qu'on soit plus vigilant. C'est aussi lié, d'une certaine manière, à l'évolution des sujets, des problématiques, des méthodes d'investigation de l'archéologie aussi, qui fait évoluer finalement les résultats que l'on peut avoir.
Et comment est-ce qu'on fait pour, entre guillemets, remplir les blancs quand on est archéologue? Parce que vous dites, finalement, on a trouvé énormément d'épée, c'est ce qui vous a fait réfléchir et vous dites mais il faut s'intéresser à ces armes qui ont servi à faire la guerre. Mais comment on fait pour remplir les blancs des champs de bataille, les blancs de l'équipement, enfin vous reconstituer, mais comment on fait pour remplir les blancs, ce qu'on ne trouve pas, puisqu'il n'y a pas d'écrit, hein, il s'agit de proto-histoire.
Alors, on fait comme, j'allais dire, tout historien, on fait avec abondance et misère. Parfois, on a trop, d'une certaine manière, d'un côté. Là, on a des milliers d'épées. Finalement, on pourrait en avoir un peu moins. Ça gênerait pas le concept même d'épée. Et puis, on a effectivement des blancs. Donc, on va travailler avec les preuves. On va essayer de les étudier pour essayer d'en tirer le maximum d'informations et de connaissances. Et puis, on va essayer de compléter, de proposer des hypothèses, de faire aussi preuve d'une certaine manière d'imagination dans le sens positif de la démonstration pour mettre en récit en se disant que c'est une proposition, que c'est une hypothèse, que peut-être demain on va avoir d'autres découvertes et qu'il faudra aménager cette première hypothèse et la recherche n'est jamais terminée.
Ça c'est sûr. Et est-ce que par exemple ça permet aussi mieux comprendre, mieux connaître l'évolution des techniques, en l'occurrence des techniques de guerre, des techniques de fabrication des outils et des armes?
Alors les lacunes, je ne sais pas si ça permet de mieux connaître, c'est-à-dire que l'accumulation d'un certain nombre de données permet de mieux connaître. En tout cas, je pense qu'il y a une réalité que cette documentation, que ces lacunes documentaires nous enseignent. D'abord, c'est une forme de modestie nécessaire des contemporains vis-à-vis de cette documentation très ancienne dont nous avons hérité, que nous avons d'une certaine manière le devoir d'étudier pour mieux connaître nos ancêtres qui nous ont précédés, quel que soit le lieu, y compris le sol européen. C'est d'essayer d'exploiter au maximum et parfois d'inventer de nouvelles méthodes avec les mêmes objets pour mieux les comprendre.
Alors comment justement remplir les blancs avec nos oreilles, j'ai envie de dire, autour de la question comment l'homme a-t-il inventé la guerre, avec quelles armes partait-il au combat et qu'est-ce qu'ils avaient dans leurs oreilles? Nouvelle question pour vous, soulevée par le neuroscientifique et musicien Emmanuel Bigan qui travaille lui sur les origines, les impacts et les effets de la musique sur le cerveau.
Est-ce que dans la préhistoire et dans les premières guerres, on peut avoir des preuves ou des éléments laissant penser que ces guerres étaient aussi orchestrées, mises en scène avec des musiques ou renforcées par des musiques? Peut-être pas dans la toute première, parce que je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'individus qui étaient impliqués, mais peut-être dans d'autres.
Votre réponse, Anne-Noël, sur les liens entre la musique et la guerre?
Alors, je pense que la musique fait partie très 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 tôt de l'histoire de l'humanité. On a des instruments de musique, y compris au paléolithique. Ce que ça change à l'âge du bronze, c'est qu'on a des instruments métalliques avec la métallurgie, on a des instruments de musique en métal. Donc évidemment, ça change le son. Et à partir du moment où on est sur des combats organisés, portés par une société, il est clair qu'on peut tout à fait admettre, et on a quelques preuves, en particulier sur les pictogrammes scandinaves, effectivement, d'une présence, d'une place de la musique qui a un rôle varié sur un champ de bataille et qui donne un rythme qui peut faire peur, mais qui donne aussi un rythme et qui scande le combat lui-même.
Et ça serait quoi l'épreuve et comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui le relier à des instruments qui pourraient peut-être toujours exister aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait l'entendre, nous?
Le son du, en l'occurrence, ce que l'on a baptisé, parce que c'est nous qui les avons baptisés, les archéologues d'aujourd'hui sont obligés de baptiser avec des noms, des objets dont ils ignorent la terminologie de l'époque. On appelle ça des lourds. Ce sont des grandes trompes métalliques qui effectivement ont un son assez impressionnant.
Je propose d'écouter justement un lourd.
Ça fait quand même un peu peur. C'est pas festif. Hein. C'est pas festif. C'est effectivement impressionnant et on les a justement sur des scènes avec des combattants, avec des bateaux. Donc ça devait avoir une place.
C'est-à-dire que vous les avez dessinés.
On les a dessinés sur ces pictos.
Et donc aujourd'hui, on peut savoir que ce sont
En Scandinavie, c'est sûr que ça avait un rôle, et parce qu'en fait, c'est pas les objets archéologiques qu'on entend. C'est-à-dire qu'on fait de l'archéologie expérimentale pour pouvoir reproduire, y compris reproduire les sons. On a également à l'extrême fin de la proto-histoire, durant l'âge du fer, les carnix gaulois, qui sont des trompettes de guerre. Là, pour le coup, on le sait parce que dans les textes antiques, ils sont mentionnés comme étant des trompettes de guerre qui sont présentes sur le champ de bataille.
Et pour mettre les combattants en transe, pour les inciter au combat.
Il peut y avoir tous ces éléments-là. Il y a effectivement des questions de rythme, il peut y avoir des questions de transe. Il est évident que d'aller combattre, risquer de se faire tuer ou aller tuer l'autre n'est pas une action simple et que les instruments de musique peuvent peut-être avoir joué un rôle dans tout ça.
Qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris au cours de cette enquête? On comprend bien, Anne-Leurf, en lisant ce livre, c'est que finalement vous y êtes arrivé un peu, non pas par hasard, mais c'est finalement le terrain, c'est ce que vous avez trouvé sur le terrain qui vous a amené à réfléchir sur la guerre, quand et comment l'homme a inventé la guerre. Évidemment que vous n'allez pas nous apporter de réponses précises, le jour, l'heure, la date, le lieu.
Non.
Mais ça nous permet aussi de réfléchir autrement, peut-être à nos guerres, à nous aujourd'hui, déjà à comprendre que la guerre c'est quelque chose d'organisé et que du coup ça correspond aux sociétés humaines. Qu'est-ce que ça vous apprend alors sur cette période, l'âge de bronze, mais aussi sur nous tous, êtres humains?
Alors effectivement, j'y suis pas allée, j'allais dire, de gaieté de cœur, mais en même temps, l'historien doit affronter sa documentation, donc il y a un moment donné où on peut pas reculer devant les évidences. Je pense qu'effectivement, ça nous apprend beaucoup de choses sur la nature humaine. Les archéologues qui travaillent sur les périodes anciennes ont cette chance d'une certaine manière et cette malchance d'avoir une distance très forte avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le moment où ça s'est passé, quand je disais tout à l'heure 3500 ans, c'est vrai que j'ai pas le nom des gens qui ont été tués, j'ai pas la filiation, j'ai pas les descendants, je suis pas dans une situation aussi difficile, aussi terrible que des combats très récents, que des massacres très récents dont on connaît les descendants, dont même certains ont survécu, auxquels certains ont survécu et qui sont toujours aujourd'hui très marqués par ces guerres, guerres qui continuent aujourd'hui. Donc cet essai il s'inscrit dans une mise en perspective, d'une certaine manière, de cette réalité guerrière. Ça montre comment les Européens, à un moment donné, ont organisé cette réalité-là.
Sont eux qui l'ont organisée, hein. Ça, vous le montrez bien. Ils ont organisé des champs de bataille, la guerre, les armes, les équipements.
Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas eu des organisations. En tout cas, on n'a pas attendu de recevoir, d'une certaine manière, des leçons des autres pour arriver à inventer un système spécifique et un mode de combat spécifique. Si on regarde par exemple au Proche-Orient, dans des dates un petit peu plus anciennes ou contemporaines, on voit des productions qui sont d'armes qui sont différentes et des modes de combat qui sont différents, dans des sociétés qui le sont aussi. Donc oui, on a inventé un certain système, c'est-à-dire que la technique, l'arme, l'objet a d'une certaine manière conduit à un mode de combat et à un mode de guerre européen très ancien qui n'a pas forcément d'équivalent ailleurs. Donc oui, on a mis en place quelque chose. Donc,
c'est une surprise, ça, pour l'archéologue que vous êtes, spécialiste des âges de bronze.
Alors, pas pour moi, parce que je pense que ça fait maintenant quand même quelques années que je travaille sur ces époques-là. Ce que ça peut apporter de plus largement, c'est aussi d'une certaine manière de ne pas oublier que sur le sol européen, dans le sous-sol européen, sous la terre et sous les eaux, on a des vestiges très 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 anciens qui nous renseignent sur notre histoire la plus ancienne. Et que c'est important.
On a beaucoup parlé de barbares ailleurs, mais les barbares, ils étaient là
oui,
aussi.
Oui, mais je pense que le terme de barbare, c'est un terme qui a été donné par les Grecs pour désigner les étrangers. On s'est beaucoup focalisé sur une histoire européenne téléologique hein, en regardant beaucoup du côté de la Méditerranée. Je pense que c'est important aussi, finalement, de ne pas oublier qu'on a notre histoire et, d'une certaine manière, nos origines, entre guillemets, même si le mot est toujours un petit peu délicat à utiliser, y compris dans le nord de la France, en Angleterre, en Écosse ou en Scandinavie.
Et on parle de guerre, vous parlez de guerre, Anne Loerf, mais il faut aussi parler de paix parce que c'était pas des guerres continues. Et évidemment, hein, on parle de guerre, d'organisation, donc c'était pour un pouvoir certainement aussi.
Tout à fait.
Et donc c'est une alternance aussi évidemment oui. De guerre et de paix.
De guerre et de paix. Alors ça, c'est vraiment un niveau qu'on a beaucoup beaucoup de mal à approcher parce que la documentation, on n'a pas le nom des gens, le jour où la guerre a été déclenchée, la signature de l'armistice, on n'a pas ces éléments-là. Donc on est sur des difficultés à estimer les durées de combat et les moments de déclenchement et de guerre et de paix qui devaient exister. Mais cette finesse-là temporelle d'analyse, on a quand même, avec la documentation archéologique telle qu'on est capable de l'étudier aujourd'hui, des difficultés pour l'approcher au plus près. C'est une frustration avec laquelle il faut composer.
Ce qui veut dire aussi, Anne Loerf, que c'est un champ de recherche qui pourrait s'ouvrir plus sur cette histoire, alors peut-être pas de la violence qui est plus compliquée, mais cette histoire simplement, de la guerre qui, on le comprend bien, est extrêmement complexe et qui est aussi l'histoire de nos sociétés humaines.
Hein. Oui, mais je pense que c'est une thématique qui intéresse les archéologues véritablement, on va dire, de français. Parce que les Anglais et les Américains ont commencé un petit peu plus tôt, en particulier via l'anthropologie. Les archéologues eux-mêmes, sur l'ensemble de la proto-histoire, la fin de la proto-histoire, on va dire les Gaulois, le monde celte, on s'est intéressé à la guerre un petit peu, il y a déjà un certain nombre d'années. Mais sur l'ensemble de la période et de l'histoire, on va dire, humaine, européenne, c'est un terrain relativement récent, mais qui, à mon avis, est lancé. Donc oui, on continue à travailler. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à travailler sur les armes. Il y a des collègues en Allemagne, en Autriche, en Angleterre qui travaillent sur des objets de ce type-là. Donc oui, il y a un champ là de recherche qui est important, qui est ouvert, qui est intéressant. Et je pense qu'il n'a d'intérêt que s'il est quand même intégré d'une certaine manière à une vision d'ensemble de la société, qu'on parle de guerre, qu'on parle de guerre, de paix, mais qu'on parle aussi, j'allais dire, du quotidien des individus, en espérant que ce soit pas, ça ne se résume pas simplement à ce type d'activité. On fait aussi de très belles études sur l'alimentation, la construction des maisons, la construction des bateaux. Voilà, cette réalité, cette fois-ci plus pacifique et finalement très universelle et importante.
Et entre guerre et paix, justement, vous avez le sentiment que nos sociétés ont évolué dans un sens, ou que c'est justement des sortes d'allers-retours. jour et que finalement, on n'a pas appris tant que ça. Quel serait votre sentiment par rapport à ça ?
Je ne sais pas si on a appris tant que ça, parce que visiblement, nous continuons et nous avons, enfin, les sociétés ont quand même du mal à se sortir de ces réalités guerrières, même si aujourd'hui, dans notre monde du 21e siècle, on est très vigilant pour essayer de ne pas en déclencher, de ne pas ou d'arrêter certaines qui existent. En même temps, on se rend compte que c'est extrêmement difficile à l'échelle mondiale. On n'est pas les gens à l'intérieur, les populations à l'intérieur des pays conduisent des guerres, pour certaines extrêmement dures et difficiles. Et je ne suis pas sûre qu'effectivement nous ayons tiré toutes les leçons humanistes des plus anciens combats et des plus anciennes guerres que l'humanité ait inventées.
Et on n'est pas arrivé à faire autrement que finalement en faisant société que d'osciller entre guerre et paix. On n'y arrive pas. Et il n'y arrivait pas non plus il y a 3000 ans, comme peut-être plus tôt, les hommes
les femmes. Tout à fait, tout à fait. Non, on n'a pas. En tout cas, la documentation archéologique et le regard qu'on peut poser aujourd'hui a du mal à nous sortir de cette réalité guerrière.
Ça, alors, quand évident. On parle de l'homme, c'est au sens générique, mais il y a eu des découvertes assez récentes, hein, notamment, je crois, du côté de ces pays scandinaves, sur des femmes également qui étaient combattantes et guerrières.
Alors, on n'a pas de traces de femmes combattantes pour l'instant, pour ces périodes-là. On a des femmes.
C'est plus récemment qu'il y a des.
En tout cas, pour la Jubrance, on n'a pas de femmes guerrières. On a des femmes riches, dans des tombes riches, mais on n'a aucune femme qui soit, par exemple, enterrée avec des armes. Il semble qu'on soit dans des sociétés qui associent étroitement le combat avec l'homme, cette fois-ci le mâle, et non pas simplement l'homme générique.
Voilà qui est dit. Merci infiniment, Anne-Laure, d'être venue en direct dans notre studio partager toutes ces recherches sur la guerre par les armes, le jour où l'homme inventa la guerre. C'est le titre de votre essai passionnant qui vient de paraître aux éditions Belin, un ouvrage qui devrait faire du bruit et on l'espère faire réfléchir. Je signale aussi aux éditions Hermann une collection de sciences humaines autour de l'homme et la guerre. Et puis je propose de nous quitter en paix, hein, ça fera du bien, avec The Herbalizer en concert ce soir au New Morning à Paris, dans le cadre du festival All Star Something Wicked. Y aurait-il quelque chose de tordu dans notre nature humaine ? The Herbalizer sur RFI.
Autour de la question.
Herbalizer sur RFI, Something Wicked. Au revoir, Nerf.
Au revoir,
quand
merci.
Vous voulez.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver lundi, amis auditeurs depuis Toulouse, pour la première conférence de jeunes scientifiques africains autour de la question « Pourquoi revenir ou pas ? » Faire de la recherche sur le continent africain avec Nicolas Benita à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, surtout restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles à l'écoute de RFI. Prochain journal dans une minute.